Ici l'an. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Les carottes sont cuites, je répète. Les carottes sont cuites.
Je répète.
Le loup est dans la bergerie. Je répète. Le loup est dans la bergerie. Le groove perdu va commencer. Je répète. Le groupe perdu,
Salut à vous, à la recherche du groupe perdu. Session 371, une émission à géométrie variable produite depuis 2011, diffusion radiophonique en 2021 sur les ondes de RDIWA, Radio Dragon et Radio Sainte-Afrique. Cette semaine, on va s'intéresser pendant une heure au début du mouvement hip-hop en France. C'est la première émission d'un cycle sur l'histoire de ce mouvement en France. Il y aura d'autres émissions derrière. Mais pour cette première du cycle, on va donc s'intéresser à l'émergence du mouvement entre 1982 et 1990 plus exactement. Le hip-hop existe aux États-Unis depuis 1974, je ne vais pas revenir dessus, mais il a mis une dizaine d'années avant de venir inonder les ondes des toutes nouvelles radios locales ou commerciales qui ont vu le jour après la libération des ondes en 1981. En 1979, Rapper's Delight de Sugar Hill Gang devient le premier tube rap dans le monde. Ce titre phare marque la fin du hip-hop de la toute première génération. Jusque-là, les morceaux improvisés en block party ou dans les battles faisaient 15 minutes, voire plus, et les formats radiophoniques étaient bien loin d'être la norme. C'est le début du business dans le rap et ce titre se vend en France à plus de 600 000 exemplaires. Le titre ne fait pas partie des meilleures ventes de cette année-là, bien loin derrière les Village People et leur YMCA, loin derrière Francis Cabrel et encore plus loin de Christophe. Mais le hip-hop fait bien ses tout premiers pas en France dans les boîtes de nuit au tout début des années 80 avec les premières productions commerciales comme ce morceau du Fatback Band King Team. Le fat,
back, 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 back. To the beat, everybody. To the beat, everybody. Two, four, six, eight. Fatback, don't you hesitate.
Fatback Band King Team en France, c'est avec la légalisation des radios libres en 1981-1982 que le rap commence à être diffusé un tout petit peu. Phil Barnet, futur chanteur de Variétoche, mais à cette époque animateur sur une radio libre Carbon 14, deviendra un des tout premiers à passer du hip-hop à la radio française. C'était en 1982. L'histoire un peu oubliée, Phil Barnet rangé dans la catégorie des chanteurs ringards des années 80, mais pas les pionniers qu'il cite souvent comme une influence et un précurseur en France. 1982, Grand Master Flash sort The Message avec pour la première fois un texte conscient à travers le récit d'un habitant du Bronx, lieu de naissance du genre. Pour la première fois depuis 1973, la branche musicale du hip-hop, le rap, devient un vecteur de revendication et de relais d'un quotidien qui n'a rien de festif. Dans la foulée de la sortie de ce titre, le DJ et ses Furious Five tournent en Europe avec la New York City Rap qui dévoile toutes les disciplines du hip-hop. En France, la tournée fera escale dans quelques villes de l'Est comme Belfort ou Metz en région parisienne. Ça se passera à l'Hippodrome de Pantin, au Bataclan et au Palace. Ça va être pour beaucoup d'activistes hip-hop de la première génération le déclic, la grosse claque qui va changer leur vie. On va écouter pour continuer l'organisateur de cette tournée en France. Un homme nommé Robert Zécry, un des témoins de la culture hip-hop du début des années 80 à New York et qui est donc à l'origine de cette tournée en France. On écoutera ensuite le morceau Change the Beat qui faisait partie de des morceaux pour la promotion de cette tournée. C'est parti avec Robert Zécry chez Get Busy, Click TV.
Moi au départ, c'est pas mon idée de faire la tournée. Je dois reconnaître et rendre à César ce qui lui appartient. C'est un gars qui s'appelle Jacques Massadian, qui a fait plus tard un club
le Globo.
À Paris, le Globo, qu'on a aussi appelé chez Roger Boîte Funk. Et donc Jacques vient me voir. Il travaillait actuel à l'époque, pour que je m'occupe justement d'essayer de lui organiser cette tournée. Et comme il est français et qu'il ne parle pas anglais, donc moi je fais l'interprète, mais je réalise aussi, c'est-à-dire que lui il pense qu'il va dire à des jeunes, vous vous rendez compte, le magazine actuel va organiser pour vous un concert à Paris, etc. Et ils pensent qu'ils vont tous sauter de joie et qu'ils vont venir, etc. Or, eux, actuels, ça leur dit rien, ils savent pas ce que c'est, ils s'en foutent, etc. Donc il y a des pourparlers, ça dure un certain temps, et puis bon, bah t'as envie de venir, mais enfin, il peut pas. Il a un emploi du temps trop serré, etc. Donc il nous envoie promener. Jacques pique une colère, vraiment, il pense que je me suis mal débrouillé, enfin bon, on a un petit accrochage, chacun part de son côté, et on parle plus de cette histoire pendant 5-6 mois. Et 5 mois plus tard, ça revient. Enfin, voilà, et donc il y a un vrai enthousiasme pour eux, parce que de venir en Europe, effectivement, c'est le début de quelque chose. Mais alors, ce qu'il faut voir, c'est que il y a ceux qui commencent à être des vedettes, genre Bambata, genre DST, genre Ramelzi, genre Futura, les peintres, etc. Puis, par exemple, DST, il y a trois rappeurs dans son groupe, le Rocksteady Crew, il y a Crazy Legs qui commençait à être connu, mais les autres bon, sont inconnus. Mr Freeze, alors lui, son histoire est curieuse, parce que il vient de France, en fait. Hein, un des premiers b-boys américains, c'est un Français, Mr Freeze.
Franco-allemand.
Franco-allemand, effectivement, oui, voilà. Donc, il parle le français avec un accent, etc. Bon, tous ces gens-là, ça devient un projet qui excite tout le monde. Mais on est face à des difficultés que... C'est-à-dire que la majorité on était donc, je sais pas, il y avait peut-être 25 personnes, 25 artistes, ils n'avaient pas de papier, il fallait fabriquer les passeports, fallait faire les passeports. Souvent, ils étaient mineurs, donc il fallait avoir les autorisations des parents, etc. Donc ça donne une... C'est une histoire qui est très compliquée, mais c'est une aventure qu'on vit tous ensemble.
C'est une colonie de vacances.
Voilà, absolument. Et ben d'ailleurs, enfin, on avait un tuteur. Il y avait un prof qui a voyagé avec nous parce que lui, il s'occupait des Double Dutch Girls qui étaient mineures et qui étaient à l'école. Donc, et en plus, bon, il y avait quand même une législation à laquelle il fallait faire attention. Oui, on a vécu des moments très, très drôles. Il y a eu des contresens, des quiproquos, parce que c'était absolument... C'était drôle la plupart du temps, mais de les voir découvrir une autre culture, la nourriture notamment, c'était vraiment marrant, parce que ils avaient beaucoup de mal avec tout ce qui se mangeait en France, etc. Et puis même il y a eu des incompréhensions, c'est-à-dire que Europe 1 nous a envoyé une navette et une navette européenne à l'aéroport, tout ça. Et eux, pensant faire plaisir, la première chose qu'ils font, hein, ils se mettent à taguer le truc, quoi. Ils le taguent, donc ça fait une salade. Après, ils ont été à la cantine d'Europe 1, c'est pareil, ça s'est pas bien passé. Mais bon, on a eu... Enfin, c'était vraiment un moment très particulier.
Change de beat. C'est Louis, Fava Freddy, détective privé. Toutes les femmes qu'il suit, elles lui courent après. Il est cool dans l'eau, tout le monde le connaît. Il porte tous les murs de New York City. Ça tourne à tout après, c'est une période noire. Le téléphone coupé, le mois loyer en retard. Tout le monde dans la poche, plus de crédit dans les bars. C'est constant en tant que le boulot, ça fait rare. Il passe son temps au café à jouer des vidéos. Il fait plus rapport qu'un jeu, il sera Marlowe. Come on, Fava Freddy, détective privé. Je suis une jolie fille, je m'appelle Bianca. Je vis dans le laser et j'aime les computers. Je passe mon temps au réveil des héros de l'hôtelé. C'est Fava Freddy Long qui m'a fait craquer.
Change the beat de B-side, morceau promotionnel de la tournée New York City. Rap le fresh de la fin du morceau sera repris par tous les DJ, toutes générations confondues. Dans la foulée de cet événement, le graffiti commence à se répandre en France l'année suivante, et particulièrement à partir de l'été 1984, où les premières pièces de graff apparaissent sur les quais de Seine, réalisées par les premiers taggeurs français Bando, Mode 2, les CTK, les BBC, D83, les premiers breakers parisiens et banlieusards se donnent rendez-vous place du Trocadéro à Paris. Et les premières soirées hip-hop se déroulent dans les clubs comme le Bataclan. Fin 1984, le tout premier album de l'histoire du rap français, Panam City Rappin, sort, un album autoproduit signé d'un des pionniers du hip-hop à la française, Dynasty, qu'on retrouve au platine et au micro pour un pur moment de hip-hop old school à l'ancienne. Il lâchera le micro très vite pour se concentrer uniquement sur les turntables, les scratch et le DJing. On va l'écouter, ce monument de Dynasty. En 91, quelques années plus tard, il est interviewé dans l'émission culte Rapline, une émission qui passait sur M6 et qui était animée par celui qui deviendra une des références du hip-hop français, le journaliste Olivier Cachin. Dans cet extrait, il revient justement sur les toutes premières années du hip-hop en France. On écoutera ensuite un extrait de ce premier opus de rap français Panam City Rapping, le premier d'une longue série. C'est parti avec Dynasty au micro de la Rapline. Nous sommes en 1991.
Single extrait de son double album, on va laisser Dynasty, celui qui parle normalement avec ses mains, parler avec son cœur. Car si Dynasty est aujourd'hui reconnu comme un des parrains du rap français, ça n'est pas seulement à cause du disque qu'il vient de sortir. C'est aussi parce que, depuis presque 10 ans, il incarne les vraies valeurs du hip-hop, paix, amour et unité. Et lui, en plus, il pense vraiment à mettre ses actes en accord avec ses mots. Son disque est mortel, mais ses propos sont d'une douceur et d'une franchise rare. Alors une fois de plus, Dynasty sur le micro de la Rapline.
En 82, c'est que j'ai vu Grandmaster Flash au Palace, et puis le concert New York City Rap au Bataclan et à Pantin, ils étaient passés, ouais. Et donc bah, j'ai commencé, j'avais déjà une petite platine, bon je m'en suis acheté une deuxième, je me suis acheté une petite table de mixage, mais à l'époque il n'y avait pas de pré-écoute, pas de crossfader, donc j'ai essayé de faire mes mix comme ça, et puis après un micro, après une petite boîte à rythme, et petit à petit comme ça. Puis bon, j'ai mis quelques années avant de pouvoir payer les Rolls Royce du DJ et les Technics, quoi. J'ai fait un peu de guitare pendant pas mal d'années, mais je trouvais pas de partenaire avec qui jouer, parce que moi c'était la soul, la funk qui me faisait triper, quoi. Puis à l'époque, c'est tout le monde jouait du rock ou des trucs comme ça, et je trouvais bon. Donc je jouais dans mon coin, et puis à force j'ai tourné en rond, et puis dès que le rap est arrivé, ça m'a... Je me suis dit bon, c'est ça que je vais faire, et puis en fait je me remets à la guitare un petit peu maintenant, quoi. Mais... Ça a mis du temps quand même, parce que le rap au début c'était ni plus ni moins de la funk instrumentale avec un mec qui parlait dessus, quoi. Donc tous les délires de boîte, de sampling, tout ça c'est venu après. Enfin déjà il y avait vraiment un truc qu'on pouvait partir de rien et arriver à faire beaucoup de choses sans pour ça se défoncer la tête ou souvent en restant à l'époque, comme on disait, fraîche, quoi. Bah, le rap en français, il est venu assez tôt et c'est marrant parce que c'est un mec qui s'appelle Phil Barnet qui a rien à voir maintenant en fait, dans ce qu'il fait, quoi, mais qui a toujours aimé le rap. Et il faisait une émission qui était vachement bien sur Carbone 14. Et bon, il ramenait toutes les nouveautés, rap, funk, etc. Et lui, il rappait en français déjà, c'était en 82, quoi. Et ça, je crois que ça a un petit peu donné des idées. Bon, il y avait Chagrin d'amour, tu vois. Mais lui, c'était le premier à faire des textes intelligents, bien funky, etc. Et tout son générique était rappé, il y a plein de mecs qui le connaissaient par cœur. Et ça a un petit peu déclenché, je crois que c'est ça qui a déclenché le rap français, tout du moins pour moi et pour mon pote Ben, avec qui on rappait sur RDH en français assez tôt, quoi. Je dis pas qu'on faisait des merveilles, je dis pas que c'était super, c'était... Bon, on traduisait un peu, tu vois, quand il y a New York et Melimel qui est sorti. Bon, moi j'ai fait Panam, tu vois, je faisais les traductions un peu pour... C'était les mêmes thèmes, mais adaptés à la réalité d'ici, quoi.
De Panam City Rappin', le premier album de rap français de tous les temps, signé Dynasty, vestige de ce que fut le hip-hop au début en France, c'est-à-dire un avatar de ce qui se faisait aux États-Unis. Nous sommes en 1984 et au début de cette même année naît la première émission télé consacrée au mouvement hip-hop HOP, présentée par Sidney, décrié et souvent critiqué pour avoir terni l'image du hip-hop en France, pour lui avoir donné ce côté clownesque. C'est pourtant lui aussi un pionnier et un homme qui compte dans ce début du hip-hop en France. Musicien, DJ, danseur, animateur radio, il est un des tout premiers à passer du hip-hop dans une émission de Black Music. C'était sur Radio 7, une radio du groupe Radio France qui a existé entre 1980 et 1987. La première émission a eu lieu pour HIPHOP le 14 janvier 1984. On va écouter un extrait d'une des toutes premières émissions, celle du 19 février 1984. Avant d'écouter Sidney en parler, on se retrouve dans quelques minutes, à tout de suite.
Excuse me. Bonjour, les frères et sœurs, quelle joie et quel bonheur de se retrouver tous les dimanches sans fin sur TF1. Notre invité d'honneur aujourd'hui, Herbie Hancock avec le Grandmaster DSD. Well. Mais avant tout, la leçon, ce que l'on vient de faire, la chaîne électrique. Well.
Contrairement aux autres danses, la chaîne surnommée Electric Boogie ne se danse pas seule. Allez, venez. On peut se mettre à 2, 4, 6, 8, 10 et plus encore, comme le Sirtakis, le Madison ou bien le Schull. Pour pouvoir le faire avec moi, appelle tes copains, copines, cousins et cousines. Bon, je vais te l'expliquer. Il faut se tenir par la main, doigt croisé ou doigt croisé. Le premier de la chaîne, c'est lui qui commence. Tu casses la main, le bras, l'épaule, la tête, le torse, les reins, les pieds, et tu remontes en passant par l'autre bras, celui qui est enchaîné à ton voisin. Ouais, ouais, ouais. Tu lui passes tes vibrations d'une douce ondulation du bras. Comme ça.
Première émission, elle a été tournée au 4000 symboliquement, mmh. avec Futura. Mmh. Et c'est vrai que t'as reçu Madonna, t'as reçu aussi bien Herbie Hancock que François Feldman.
Ouais.
t'as reçu beaucoup de gens dans cette émission. Bambata, évidemment. Fable, tout ça.
Ouais, on s'est fait plaisir, nous. Avec Laurence, on s'est dit, tiens, c'est déjà dur de faire une émission.
Les Fat Boys, il me semble.
On a fait les Fat Boys à New York. On a fait
les avais comment, du coup? Parce que, tu vois, autant, bon, je pense que peut-être, je me trompe peut-être, mais pour Futura ou des choses comme ça, c'est des gens qui sont là-dedans, donc pas de problème.
Ouais.
Herbie Hancock, c'était déjà un grand nom du jazz quand il est arrivé avec Rock It.
Oui, moi, on a eu cette chance que les maisons de disques étaient derrière nous, parce que justement, pour eux, c'était des artistes qu'on ne voyait pas forcément en télé. Alors, c'était une opportunité. Auquel même pas Herbie Hancock n'a pas refusé, en plus parce qu'il était bien sûr bien ami DST. Avec DST, le DJ, pour faire Rock It. Donc d'une pierre deux coups, il était plus facile de les avoir. Donc c'était une chance inouïe qu'on a eue. On a fait James Ingram qui n'a rien à voir. Je voulais aussi élargir un petit peu, justement, par rapport à la culture hip-hop, cette culture funk de musique soul, et à travers donc, l'émission. On en profitait pour se dire, ah ben tiens, on peut faire un tel. Madonna était la copine de tout ce clan de New Yorkais dans cette culture hip-hop. Donc forcément, elle arrive, oh, moi aussi, je veux chanter ma chanson. On a beaucoup hésité parce que Holiday, effectivement, c'est pas une chanson hip-hop. Mais elle faisait partie de notre bande, quoi, on va dire. Voilà. Et c'est un peu pour ça, quoi.
Et t'avais reçu les Break Machines et il paraît qu'il y a eu un défi avec les PCB.
Oui! C'était un défi voulu par les PCB.
Street Dance, le morceau.
Ouais, c'est Street Dance.
Et on a gagné.
J'ai eu aussi un défi avec les maisons de disques, parce que nous, on ne voulait pas laisser le morceau Street Dance, on le trouvait trop commercial. Et on voulait. Donc, on a fait un mélange de mix Street Dance et Rock It pour l'émission de télé, ce qui a créé un peu. Et très, très charmant, d'ailleurs, les Break Machine, très sympa. Ça, c'est bien fait. Vous avez envie. Les PCB avaient envie de. On avait une vraie. Culture hip-hop, hein, de battle. C'était virulent.
Donc on va revenir à ce que tu disais. L'émission s'arrête presque aussi vite qu'elle a commencé, mais entre-temps, ça a été un raz-de-marée. Ouais. C'est-à-dire vraiment ce qu'on appelait ça à l'époque le Smurf. Mm. Alors ça a été un effet de mode pour beaucoup. On parlera du noyau dur qui a subsisté. Mm. Mais toi, comment tu t'es retrouvé pris dans ce tourbillon? Comment tu l'as vécu à l'époque?
La première émission qui
comment passe. Tu l'as vécu à l'époque et comment tu le vois maintenant avec le recul de tout ça?
Ouais. Parce que t'as un peu vampirisé, entre guillemets, le hip-hop, c'était toi le visage de ça, en fait, à cette époque-là.
D'abord, tu t'y attends pas. Je m'y attendais pas du tout. C'est-à-dire qu'on a tourné trois émissions. La première est diffusée vers le 15 janvier. Je pouvais plus sortir. Je sors de chez moi, à Saint-Denis, sur la place de la mairie. Noir de monde. Là, tu restes, tu refermes la porte, tu remontes chez toi, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Oui, non. Je m'y attendais pas, parce qu'on aimait ce qu'on faisait. J'ai pas voulu faire de la télévision pour dire, tiens, je vais devenir célèbre. J'ai fait de l'émission parce que après la radio, la télévision, pour de la culture hip-hop, j'étais à fond dedans. Donc tu penses pas devenir, c'est pas le mot célèbre, mais d'être connu comme ça du jour au lendemain, c'est assez stressant.
Parce que quand tu repenses, il y avait rien pour que ça réussisse, quoi. L'horaire était pas bon, le sujet était un peu moyen.
Ouais.
Il y avait beaucoup de noirs, etc. Alors qu'on n'avait jamais vu ça. Enfin,
c'était très naïf comme contenu.
Exactement. Et on n'avait pas de moyens pour faire une belle émission. On a mis vraiment.
C'était une émission qui aurait plus sa place en pleine nuit, par exemple.
Oui, voilà.
Et sur Zik.
Sur TV6.
Ouais, peut-être.
Plus tard.
On avait, tu vois, la couleur des images, c'est un petit peu ça. T'es vraiment avec les moyens du bord, parce qu'il n'y avait pas du tout de moyens. T'es à faire un deal, bon, pas d'argent, on a mis des échafaudages, accroché trois vélos.
Comment pourrait-on dire mieux?
Ce rythme obsédant, ce rythme insolite.
Et comment pourrait-on dire mieux?
Ce rythme obsédant, ce rythme insolite.
Et comment pourrait-on dire mieux?
Ce rythme obsédant, ce rythme insolite.
L'image même de la force en mouvement. Je plonge dans mes souvenirs pour voir mon devenir. Sort dans l'année, tout temps de choses à les partir. Je rentrais de l'école un soir, dégoûté, en pensant à tous les devoirs qui m'attendaient. J'entrais, je tombe sur la télé. Qu'est-ce que c'est que ces mecs qui tournent sur la main et font des roulés boulés? Pour moi c'était nouveau, pourtant c'est sûr. Mes deux pieds et ma tête battaient déjà la mesure. On dit que tout se joue sur un coup de dé, mais c'est sûr, un coup de grosse caisse que mon destin s'est tracé. Collé au rythme, j'ai oublié mes livres d'école. Avec la danse c'était incompatible, j'étais voué à faire de la musique. Condamné à placer le son au-delà d'une rhétorique. Ainsi j'ai envers lui une éternelle dette dont je m'acquitte chaque fois que je fais bouger les têtes.
Des gadgets, check 1, 2 pour le micro. Fun place au MC qui torchait les parties. Autant des profales, kamikaze et verbal. Wild style, 2 pour la basse, 1 pour les aigus. Putain, je suis le vrai Gus. Si ce style est ton apéritif, je suis monsieur plus Baston. Mon son sur les ondes, le matin pimpant. J'injecte ton fond qui clappe dans vos tympans. Lyriciste grimpant, les compétiteurs saignent. Car j'absorbe plus de trucs que la saigne. Daigne écouter. L'oscillateur de tête, le boss, le pivot. Chill est le suprême poteau, y'a pas de rivaux. Réfractaire au son de Mars, c'est que ce flow de rime brime. Flipper, me dites pourquoi vos bobines d'Odeline. C'est intrinsèque, mais le sec en basket, casket n'a pas d'équivalent pour faire bouger la tête.
Depuis les flashbackers, l'eau a coulé sous les ponts. Tout a changé sauf le volume de mon Walkman à fond. Pourtant, je regrette parfois ces entraînements interminables où l'on crée de nouveaux pas. Aujourd'hui, on recherche des échantillons. Chaque fois meilleur, mais toujours pour les mêmes raisons. C'est comme ça que je m'éclate. Faire bouger la tête des mecs sur un swing soul qui claque.
Ouh, terrible, c'est ça, enchaîne.
Il me passe bien grâce, mon sang bout dans mes veines. Le cœur est un métronome. L'homme ne peut que s'incliner car le hip-hop impose son dogme. Pour ceux qui, avec moi, usèrent leurs sous-vêtements et ceux qui nous ont supportés jusqu'à présent. Je me dois de tenir mon poste. J'ai envers eux une dette dont je m'acquitte quand je fais bouger les têtes.
19 décembre 1984, l'émission HIPHOP s'arrête brutalement après un petit peu moins d'un an d'existence et beaucoup d'adeptes du hip-hop se retrouvent un peu sur le carreau. Plus aucune émission de hip-hop ne passera à la télé avant 1990. D'autres seront aussi profondément déçus par la tournure et la couverture médiatique du mouvement en ce milieu des années 80. Bref, ça commence à sentir le sapin et les médias mainstream comme TF1 considèrent le mouvement comme une mode qui va passer, d'où la décision d'arrêter l'émission. Paradoxalement, la fin de l'émission en cette fin d'année 84, début 1985, marque aussi un tournant et le début d'un renouveau du mouvement en France. Loin des caméras, les disciplines du hip-hop vont continuer à vivre et à évoluer. On va écouter un autre pionnier du hip-hop à la française, du hip-hop émergent, nous parler de cette période. Il s'agit de Solo Danseur dans l'émission justement de Sydney. Il avait alors 15-16 ans et qui sera plus tard à l'origine du collectif Assassin. Ensuite, le morceau qu'on écoutera de cette même année 1985, Ice-T Killers. À toutes.
Deux choses justement après cette émission, donc, qui en fait dure très peu de temps en vérité à la télé. Il y a deux choses, c'est-à-dire d'une, et après, ça, médiatiquement, ça disparaît complètement. Enfin, l'effet de mode disparaît complètement.
Ouais.
Donc, beaucoup de gens s'en vont en même temps. Mmh. Il reste qu'un noyau dur. Et en même temps, on découvre un peu plus profondément ce qu'est le hip-hop. Parce que l'émission, elle avait quand même un côté un peu, pas clownesque, mais bon, c'était léger, quoi. Il n'y avait pas toute la profondeur qu'on pouvait comprendre dans la culture hip-hop après. Et ça, c'est pareil, tu l'as appréhendé comment, ça?
Ben, c'est à ce moment-là, effectivement, je pense qu'on s'est vraiment formé en tant que b-boy et où on a développé la culture et que ça a eu un sens pour nous. Ça lui a vraiment donné un sens. C'est-à-dire que, effectivement, comme tu dis, cet aspect un petit peu clownesque où les jeunes qui font cette activité
En fait, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que non, c'est pas juste une activité. Nous, c'est un mode de vie.
C'était très orienté aussi pour les enfants, le côté Smurf que tu pouvais retrouver dans le journal de Mickey, dans Pif Gadget,
surtout,
etc.
Très basé, très figé sur la personnalité de Sidney, qui est ce qu'elle est, en bien comme en mal. Et au bout d'un moment, c'est vrai que c'était une image qui était un peu pesante pour le hip-hop, quoi, quelque part.
Pour la culture, puisque tout était centré, effectivement, sur cet aspect-là, gentil, il est beau, il est gentil, et puis voilà...
casquette à l'envers.
Oui. Voilà, clownesque, limite. Mais c'est au moment où ça s'est arrêté, effectivement, cette émission, que ça nous a permis, nous, de nous ancrer réellement dans cette culture et surtout de la revendiquer et d'en comprendre réellement, vraiment, le sens profond qu'elle avait pour nous et la parole qui nous était donnée au travers de cette culture.
Et justement, à cette période, donc de l'après-hip-hop, t'es l'un des premiers mecs aussi de France à aller à New York régulièrement, avoir des connexions là-bas. Ça, c'est pareil. Quel souvenir tu gardes de tout ça ?
Écoute, moi, c'est un truc qui m'a vraiment formé parce que c'est là où je me suis vraiment plongé au cœur vraiment de la culture et que j'ai fait toutes les découvertes que j'ai faites, ne serait-ce que ce soit par rapport à la musique, comment la musique, c'était un truc transversal, qu'il n'y avait pas juste le hip-hop et la musique rap et ainsi de suite, que ça allait, que j'ai découvert aussi toute la scène club new-yorkaise du milieu des années 80. Et ça, ça n'a pas de prix, quoi, d'être allé dans tous les clubs mythiques, d'avoir croisé tous les DJ mythiques, d'avoir été dans les cabines de tous les DJ quasiment. Ça, pour moi, c'est incroyable. Et aussi d'avoir rencontré d'autres Français avec qui on partageait cette histoire de culture, notamment les IZB. J'ai un souvenir d'arriver au tunnel un jour à un anniversaire de la Zulu Nation.
J'étais là, je crois.
T'étais là,
ah oui.
Où j'arrive dans la
91,
cabine.
Ou 90 ou 91. Dans ou 89 peut-être. Non,
oui, 89. J'arrive dans la cabine du DJ et je tombe sur les IZB.
Que tu n'aimais pas à l'époque.
Ah bah on n'était pas spécialement copains, c'était la compétition.
Recherche du groupe perdu, session 371, première émission d'un cycle sur l'histoire du hip-hop en France. On s'intéresse cette semaine à l'émergence du mouvement entre 1982 et 1990. Fin 84, début 85, le hip-hop est en déclin en France, l'émission HIP-HOP s'arrête et le courant devient pour les maisons de disques ringard. Est considéré par les médias comme une simple mode vouée à s'éteindre à petit feu. Ceux qui usinaient dans l'ombre comme Dynasty rencontrent alors de nombreuses difficultés pour animer des soirées hip-hop ou des émissions à la radio. Ils partent d'ailleurs aux États-Unis pour ramener les dernières nouveautés et des vinyles qui alimenteront plus tard ces instrus. 1986, un lieu mythique de la culture hip-hop française commence à être fréquenté par les irréductibles, ceux qui ont continué à y croire et à développer le mouvement en France alors que beaucoup le croyaient mort. Cette fois-ci, ça se passe pas à la télé mais à l'abri des regards sur un terrain vague. séparés de la rue par un mur très haut de l'ordre de 1m50, 2m. Coincé entre les stations Stalingrad et La Chapelle, ce terrain vague est découvert par des graffeurs. Il était semblable à des dizaines d'autres terrains de la région parisienne où se réunissaient alors les adeptes de la culture hip-hop naissante. Aujourd'hui détruit, il a été détruit en 1990, ce terrain reste l'objet d'une mythologie trompeuse. C'est pas ici que se réunissaient les premiers b-boys français, mais plutôt ici qu'ils se sont retrouvés une fois que l'euphorie médiatique des années 80 était retombée. On avait affaire à des radicaux et c'est ici qu'ils ont fini par inventer à l'écart des médias, devenus moqueurs, ce qu'on appelle aujourd'hui le hip-hop français. Sont passés par ce terrain vague les futurs NTM, Assassin, Lionel D, Johnny Go et Destroy Man. Retour sur l'histoire de ce lieu culte underground du hip-hop français avec une nouvelle fois Dynasty au micro d'Olivier Cachin sur la radio Le Move. C'était en 2018. On écoutera ensuite un extrait sonore d'une block party de cette même année 1986 avec Dynasty au platine. Il n'y aura pas les images, mais vous pourrez les voir sur le podcast et surtout, vous pourrez entendre à quoi pouvait bien ressembler une block party en France à cette époque. Ambiance hip-hop de cette année-là, on se replonge 35 ans en arrière. À toutes.
Justement, sur premier album, parce que c'est vrai que le public de Mouf, qui est quand même assez jeune, n'est pas forcément au courant que le hip-hop en français, ça n'a pas commencé uniquement avec Boubarov, ni même NTM, c'était dès les années 80. Et toi, en 84, je crois, c'était ouais, le premier ça, album. Ouais, ouais. Alors, Mera, c'était totalement autoproduit. À l'époque, tu étais livreur, tu le distribuais dans Paris, c'est tu l'avais pressé toi-même, ouais. À une époque où c'est même pas que personne croyait au hip-hop français, c'est que c'était genre, il y avait les producteurs et les rappeurs se comptaient sur les doigts de la main gauche.
Bah,
de
les commentaires Renard, que j'avais à ce moment-là, c'était que j'avais un métro de retard, qu'en fait le rap c'était déjà fini et que donc ça servait à rien de faire du rap en 84 parce que beaucoup considéraient, notamment dans les maisons de disques de l'époque, que non, c'était juste une vague qui était passée et que c'était, ça servait à rien de... Donc ils étaient un peu touchés par la démarche, mais pour autant ils m'ont pas encouragé à continuer, donc il a fallu trouver la force entre nous, entre les acteurs de l'époque pour s'accrocher puis faire que le hip-hop devienne en France ce qu'il est devenu au jour d'aujourd'hui. Quoi.
T'as toujours une démarche de passionné, de puriste, de...
Bah, c'est un choix de vie, j'ai envie de te dire. C'est... Ouais. Bah, comme toi, ça fait un moment qu'on se connaît et que tu tiens le même rôle et forcément c'est la passion aussi qui te guide, et sinon tu feras autre chose, tu parlerais d'autre chose. Bon bah moi c'est pareil.
Le terrain vague de La Chapelle, alors c'est un endroit mythique, plein de gens en parlent, mais peu de gens l'ont vraiment vécu. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur cet endroit qui a été un des premiers endroits parisiens où se sont rassemblés les acteurs de ce mouvement hip-hop,
hein? Bah écoute, c'était un terrain vague qui était, c'était pas porte de La Chapelle, c'était entre métro Stalingrad et métro La Chapelle, et c'était un terrain qui était d'expérimentation pour tous les graffeurs de l'époque. Et ça a permis.
C'était Notre-Dame de Lande du hip-hop de l'époque.
j'ai du mal à décrire qui a trouvé ce terrain. Moi, je graffais encore un petit peu à ce moment-là. Du coup, je faisais les remplissages des lettres avec Colt, qui s'appelait Popcorn, mais qui est devenu Colt après, qui a fait le logo d'Assassin, etc.
Te coller Méo, cité dans Tout n'est pas si facile de NTM, hein, c'était
ouais, lui. Ouais, exactement. Mais en tout cas, c'est ce terrain est devenu un lieu pour que les gens se rassemblent. Et c'est devenu un aimant. Pour toute la communauté, on était peu, mais c'était bien qu'il y ait un endroit où tout le monde puisse se rassembler et que les gens fassent connaissance les uns et les autres. Et du coup, moi, j'ai amené la musique dans cet endroit de manière à ce que tous les éléments du hip-hop soient représentés. Parce que s'il y a la musique, bah, il y a la danse, il y a le rap, il y avait un micro, et du coup, bah, les quatre éléments étaient là. Et je pense, ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était... un moment fort dans l'histoire du rap en France.
Et enfin,
du
hip-hop en France. C'est rien de le dire.
DMC avec Raising Hell, morceau de l'année 1986, où on voit apparaître ce hip-hop version Def Jam avec des grosses guitares bien velues qu'affectionnait le fondateur du label Rick Rubin. C'est durant cette même année 1986 que le tout premier magasin d'accessoires hip-hop, Ticaret, est ouvert à Paris, non loin du terrain vague de la Chapelle. Ce sera le tout premier de ce genre en Europe. Daniel, le vendeur dans le magasin qui était à l'origine une friperie, comprend en se rendant régulièrement au terrain vague que le style vestimentaire et les accessoires hip-hop sont un marché potentiellement juteux. Il a l'idée de demander au gérant d'origine du magasin qui se rendait régulièrement à New York de lui ramener l'accessoire b-boy du moment, les nameplates, ces énormes ceinturons avec des blazes en lettres capitales dorées. La vente de cet accessoire est un tel succès que le gérant propose à Dan de gérer lui-même la boutique. Vêtements, accessoires, disques, cassettes, Ticaret était le magasin de référence et aussi surtout un lieu de rencontre pour le fan de hip-hop de la fin des années 80. Petit rappel des faits avec un autre acteur important de la culture hip-hop émergente française, l'homme Dan Daniel Ticaret au micro de Get Busy de Click TV. On écoutera ensuite Public Enemy avec le morceau Don't Believe de Hype.
C'est vrai, comme tu disais, comme on disait, c'était un petit microcosme, et donc il y avait très peu de points de convergence et de connexion.
Ouais.
Le terrain, pour ceux qui connaissaient, parce que tout le monde ne connaissait pas le terrain aussi, même par les gens qui avaient découvert le rap, qui étaient passionnés. Ouais. Moi, je défends toujours aussi cette idée-là, qu'il y avait des banlieusards qui n'ont jamais mis les pieds au terrain et qui étaient quand même des vrais passionnés, quoi, tu vois.
Tout à fait. Ouais, tout à donc, fait.
Pareil pour Globo, pareil pour plein de choses comme ça, quoi.
Comme on dit, il y avait des super danseurs de break qui n'étaient pas parisiens.
Exactement. Mais et c'est vrai que Ticaret, c'est un lieu de rencontre, surtout.
Oui, mais c'est un lieu de rencontre qui a existé. Bah, comme je réinsiste sur le fait d'avoir fait la ceinture grâce au BBC, et ben, il existait aussi, ça existait gravement grâce au B-Boy. C'est comme si les B-Boys, ils ont dit, putain, mais il nous faut une boutique hip-hop et on va tout faire pour qu'elle existe. C'est pas qu'on va la soutenir, mais... Ils venaient, ils se sont retrouvés et je me suis retrouvé comme maison de la culture sans que je le veuille, quoi.
Il y a eu aussi que tu au-delà des fringues, on pouvait à un moment trouver aussi des mixtapes, on pouvait acheter des places de concert, il y avait tout un tas d'accessoires, oui, les bagues, les médaillons, tout ce que tu veux.
Ticaret, c'était la Fnac du hip-hop avant la Fnac.
Ouais. Bah, en fait, tout ça, c'est tous les trucs qui sont arrivés, c'est, comme je te dis, c'est les gens qui sont venus avec leurs idées. Clyde, il est venu, il me dit, oh, je fais des mixtapes. Bah, vas-y, je vais te vendre des mixtapes. Les EZB, ils font, oh, on fait des places de concert, on peut te les mettre en vente. Bah, vas-y, on les met en vente. Get Busy, il me fait, Cher, il me fait, oh, je fais un magazine. Bah, vas-y, on va mettre le magazine. Et c'est tous les gens qui étaient actifs, qui sont venus à la boutique, qui ont rendu cette boutique, riche et diverse, comme ça. De toute manière, j'avais pas beaucoup de si on peut dire, des clients. Bon, il y en a qui achetaient les baskets Il y en a qui venaient pour les disques aussi, il y en a qui venaient pour les magazines, mais pratiquement tous les clients, c'était des activistes. C'est rare qu'il y avait juste quelqu'un qui venait parce qu'il trouvait que les fatlassis, c'était joli ou que une ceinture, c'était un bijou. C'est, tout le monde avait une activité, quoi. Et de ce fait, bah, il y avait plein d'idées, plein de choses qui se proposaient. Tu pouvais aussi très bien venir à Ticaret et puis repartir avec trois nouveaux amis, quoi.
Comme on le disait la dernière fois, souvent à cette époque-là, le seul vecteur d'information, c'était les pochettes de disques sur lesquelles tu repérais les fringues, etc. Voilà, est-ce que c'est aussi sur ça que tu flairais les tendances et éventuellement qu'il y avait des gens qui venaient te dire, bah tiens, tu peux pas avoir ces pompes-là en te montrant pochettes de disques à l'appui, ce qui serait bien à avoir.
Je vais juste raconter une petite anecdote parce que au début, les ceintures, c'était la commande. Et il y avait un truc qui était vraiment le Graal un peu inaccessible pour plein de gens à l'époque, dont moi et tout ça, c'était la Double Goose.
Ouais.
Voilà.
Armen, si tu nous écoutes.
Je sais que tu en ramenais à la commande.
Oui.
Très, très cher pour à l'époque.
Parce que, effectivement, mais tout était très, très, très cher à Ticaret. Voilà. Tout était vraiment très cher.
C'est vrai qu'à l'époque, vraiment, le Graal, le truc rare, le truc vraiment où très peu en avait, c'était la gousse, quoi.
Ouais, ouais. Bah, c'est un blouson. Hein. Je sais pas, on va dire que. Voilà, c'est un blouson.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est, parce qu'après, c'est devenu un peu plus tard. Un blouson de Kaira, ce qui n'était pas le cas à l'époque, c'était vraiment un blouson des b-boys. Ben,
pas à New York. À New York, c'est marrant quand j'ai ramené les ceintures, quand je leur ai dit je veux des Kangol, quand je veux des Goose, tout ça, les Coréens ils me font, mais à Paris, ils mettent ça, à Paris, ils veulent ça. C'est genre, tu sais, Paris, c'est quand même les Champs-Élysées, c'est la classe. Comment vous voulez vous habiller en karat, en vêtements de travail, etc. Et donc, mais c'est vrai que après, ici, c'est devenu un vêtement de Kaira et de dépouilleur, quoi.
Mais est-ce que toi, justement, tu te servais, donc pour en revenir à ça, des pochettes par toi-même, de regarder des pochettes et dire, ouh là là, ça pourrait faire une petite tendance, je suis sûr que ça va plaire.
J'étais comme tout le monde. C'est-à-dire, quand on regarde la pochette de disque de Public Enemy, on voit qu'ils ont des Goose, on voit qu'ils ont des Avia, les gens ils kiffent, mais moi je kiffe aussi. Donc, je suis dans le même état qu'eux. Et effectivement, je vais essayer de trouver ce qu'ils ont. Si je fais troupe, c'est parce que LL Cool J a signé avec Troupe. Sinon, j'aurais jamais fait Troupe. Tu vois, c'est tout ce que je vends. Effectivement, les Kangol aussi, parce que lui, il le porte très bien et il fait très bien la pub. Mais c'est vraiment, effectivement, les pochettes de disques et par la suite, les clips qui font la mode, quoi.
Caught you looking for the same thing. It's a new thing. Check out this I bring. Uh-oh, the roll below the level, cause I'm living low next to the bass.
Come on!
Turn up the radio. They're claiming I'm a criminal. But now I wonder how. Some people never know. The enemy could be the Frank Guardian. I'm now a hooligan. I rock the party and clear all the madness. I'm not a racist. Preach to teach the
cause some they never had this.
Number one, never wanna run about the gun. I wasn't licensed to have one. The minute they see me, fear me. I'm the epitome, a public enemy. Used, abused, without clues. I refuse to blow a fuse. They even had it on the news.
Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype.
Yes. Was the start of my last jam, so here it is again, another death jam. But since I gave you all a little something that I knew you lacked, they still consider me a new jack. All the critics you can hang on my hold the rope, but they hope to the Pope and pray it ain't dope. The follower of Farrakhan, don't tell me that you understand until you hear the man. The book up the new school rap game, writers treat me like Coltrane, insane. Yes to them, but to me, I'm a different kind. We're brothers on the same mind, unblind, caught in the middle end, not surrendering. I don't rhyme for the sake of riddling. Some claim that I'm a smuggler. Some say I never heard of ya. A rap burglar, false media. We don't need it, do we?
It's fake, that's what it be to you, dig me? Yo, Terminator X, step up on the stand and show these people what time it is, boy.
Public Enemy, Don't Believe the Hype. Les premières blocs parties à la française ont donc lieu dans ce terrain vague de la Porte de la Chapelle. En 1986, il y avait des graffeurs, des breakers, Dynasty bien sûr aux manettes, et de samedi en samedi, il y avait de plus en plus de monde, jusqu'à 300 personnes. Les infos étaient relayées par Radio 7. Tout ça a duré sans problème d'août à novembre 1986. Printemps 1987, les habitués veulent remettre ça, mais le changement de commissaire de police va changer la donne. À la première tentative, les flics débarquent, encerclent le terrain et tout le monde se casse. Le terrain sera encore utilisé par les graffeurs jusqu'en 90, date de sa destruction. En 1987 sort le tout premier single commercialisé de rap français. Il est signé Johnny Go et Destroyman, autres pionniers du mouvement et parmi les premiers à rapper en français. L'année suivante, ils sortent le morceau J'en ai assez, peut-être le premier qui cause des problèmes dans les banlieues. Ça a pas très bien vieilli, c'est old school à souhait, mais voilà un témoignage de ce que fut le rap français en cette année 1987. Pendant ce temps-là, Eric B et Rakim sortaient l'album Paid in Full. Une nouvelle esthétique du hip-hop naissait avec cet album, un flow novateur, des instrus moins électro, moins rock, mais davantage orienté vers le soul-funk. Mais avant ça, une œuvre poussiéreuse de l'histoire du rap français avec Johnny Go et Destroyman. Le morceau s'appelle On le balance. C'est parti.
Avec beaucoup de peine, Johnny Go, et Destroyman, je fais les veines. On le balance pour toi. Des potes, ta famille, tous ceux qui entendent cela. Commencez à danser en faisant des pas. Et ferme les yeux, si tu veux la brillance de notre éclat. Dans une foule sur notre ambiance. Oublie tous tes ennuis et toutes les souffrances. Et mets sur ton visage un éclat de bonheur. Et notre rap décollera tel même un enchanteur. On le balance pour toi. On le balance pour toi. On balance pour toi, mais je suis sûr que la vie te t'envahit déjà. On balance. On balance. Pendant toute la semaine, chacun est dans son élément. Tu travailles,
du business,
viens en galérant.
Tu ne perçois plus de belles choses,
la liberté, bonheur.
Rejoins-nous sur ce tempo
et viens te mettre au cœur
du peuple de la paix.
Fais-y sans frayeur,
car quelle que soit ta tête,
tu capteras la chaleur.
Que l'on balance. Pour toi,
ces paroles sont sincères.
Et dites avec moi,
on le balance, on le balance, on le balance pour toi.
Car notre royaume est grand.
Et chacun il y a roi.
Amour,
passion, la guerre dans ce monde.
Tu t'embrasses pour un rien.
Sous les yeux d'une blonde.
T'as la pêche d'un titan.
Rien ne te taira.
Et la société
jour après jour dira quelque chose.
Si tu t'en fous, tu es là, oubliant tes instincts sauvages.
Et tes cris de joie nous montrent à quel point tu as la rage. Et on balance, on balance, on balance pour toi. On
It's been a long time, I shouldn't have left you without a strong rhyme to step to. Think of how many weeks shows you slept through. Time's up, I'm sorry I kept you. Thinking of this, you keep repeating your miss. The rhyme from the microphone soloist. So you sit by the radio and on the dial soon. As you hear it, pump up the volume. Dance with the speaker till you hear it blow. Then plug in a headphone, cause here it go. It's a four-letter word when it's heard to control your body to dance. So, dot text the tempo like a red alert. Reach your reflex and let it work. When this is playing, you can't get stuck with the steps. So can say, and I'ma still come up with a gift to be swift. Follow the leader, the rhyme will go deaf with the record that was mixed a long time ago. It could be done, but only I could do it. For those that can dance and clap your hands to it. I start to think, and then I sink into the paper like I was ink. When I'm writing, I'm trapped in between the line. I escape when I finish the rhyme. I got soul,
soul, soul.
The stage is empty. A beat like this might tempt me to pose, show my rings and my fat gold.
Fin de l'année 1988, c'est la montée en puissance d'une émission culte sur Radio Nova, le Dynastyle, où Dynasty est accompagné par le MC Lionel D, qui nous a quitté l'année dernière. Au programme de l'émission, les derniers disques américains de rap et surtout des freestyles. Dina Style a été une véritable porte d'entrée pour une génération entière de rappeurs français qui vont découvrir le freestyle et le rap live à la radio. Avec un rendez-vous pendant 2 ans, tous les dimanches soirs à 22h, Dynasty et Lionel D ont lancé des vocations et ont posé les bases du véritable début du rap français. Tous les grands noms de ces années 90 ont fait leur début dans cette émission. NTM, IAM, Assassin, Ministère, Hammer, MC Solar, EGM, New Generation, MC, Salia, Les Little, etc., etc. L'émission est diffusée uniquement en région parisienne, mais les copies en cassette traversent la France. On va écouter pour continuer l'émission quelques extraits du Dina Style, où vous pourrez reconnaître certains flows qu'on écoutera sur disque la semaine prochaine. Dina Style, c'est parti.
Suprême, 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 tu sais quoi, suprême, NTM, ce Radio Nova, ça va?
Ouais, ça va. Ça va.
Ah, ça va. Alors si vous voulez commencer à délirer, il ne faut surtout pas suprême NTM vous gêner.
Ok, c'est parti, tous les toys à vos pupitres. Encore au contrôle NTM.
Ok, NTM au contrôle ce soir sur Nova pour rétablir la situation, relever le niveau du rap sur RIPA.
Ça vole bas.
Ok.
Donc, détonateur est enclenché. He goes.
Okay.
Le fond qui flotte. Le style est une dot pour la génération à venir. Donc de pire en pire, ma prostatire.
Car le poids légendaire de son tempo, dosé à souhait, doit te donner la sensation d'être léché. Alors bouge, danse. Avance dans la groove car je donne pour que tu bouges.
Ma pose pipe prouve que le rap en français est plus autant qu'en anglais.
Yo, alors reste là, près de moi, car aucun faux pas ne sera fait.
Ma langue, ma plume, rime après rime, sound and tone. Laisse l'anglais à fun.
Yo, prends pour que tu danses.
Donc tout première dédicace au 93 nique ta mère Bassi.
Au 93 mafia crew acquise à Karakia à Casta fame à marche et à tous les comètes Saint-Denis qui nous écoutent ce soir.
À mon homeboy rocking squad car.
Ok, je crois qu'on va pouvoir
DJ
repartir.
DJ Fly D. Donc certi de ma voix, ma musique est digne, associée en qualité et prétention. Yo, frisant l'apothéose, elle dose.
Oui, elle crée le litige car elle est l'offense à toutes ces merdes produites en France.
Paris funky,
le nord hardcore, ma voix c'est scratch.
Sans relâche, le style arrache.
On m'appelle Solar, pas MC Calamar. Tout simplement parce que mes rap, ils s'achètent un dollar. Ok, go, j'ai pas dit dinar, je dis dollar. Ok, je vais donner le rag à mon fils. Tout a commencé là-bas, pas loin de maison à le fort. Quand je vois une mémé qui fait vibrer son corps, elle me dit mon MC Solar, moi je te donne du réconfort. Je dis non merci,
moi
je ne mange pas de porc. Bouge de là, bouge de là, bouge de là, bouge de là. Je l'ai dit, bouge de là.
Bon, bye bye, ça fait.
Bouge de là, bouge de là, bouge de là, bouge de là. Bouge de là. Je continue mon trajet, je vais vers la gare de Lyon. Quand un gars arrive vers moi, il se dit fort comme un lion. Il me dit Claude MC, est-ce que tu veux qu'on se boxe? Ces hématomes étaient plus gros que les seins de Samantha Fox. Je lui ai dit, bouge de là, bouge de là, bouge de là, bouge de là. Oh, oh, bouge de là. Bouge de là, bouge de là, bouge de là, bouge de là. Bouge de là. Ok, dans le métro, y'a un charclos qui traîne. Il me raconte toute sa vie, il me dit qu'il vient de Rennes. Il me dit, je pue, il faut que je me baigne. Tu dis, jette-toi dans les gouttes, t'arrives direct dans la scène. Bouge de là, bouge de là, bouge de là, bouge de là. Bouge de là. Bouge de là, bouge de là, bouge de là.
Voilà pour ces extraits de l'émission radio Dina Style où vous avez pu entendre NTM, Solar et Lionel D 1989. Date de sortie du tout premier album de IAM sur cassette, s'il vous plaît, autoproduit et construit avec des samples sur le modèle de ce qui se faisait aux États-Unis. Il s'agit de l'album concept de IAM, la deuxième pièce maîtresse du rap français dans ces années 80 après Panam City de Dynasty. Un monument salué par tous à l'époque, un déclic, une influence et une claque pour beaucoup de rappeurs à Paris, y compris parmi les plus grands groupes de cette fin de décennie 80 comme Assassin. On va écouter Solo parler de cet album et on finira l'émission par le début de cette cassette mythique. à la semaine prochaine. Donc pour la suite de l'histoire, on se consacrera la semaine prochaine à la période 90-95 où le rap français est passé de l'ombre à la lumière. Mais tout de suite, solo de Assassin, c'était à la recherche du groove perdu. Ciao.
Assassin a été un des premiers groupes vraiment carrés. Il suffit d'écouter Rap Attitude qui reprenait un petit peu, c'était une compile sur toute la scène rap française de l'époque. Tu es sur la pochette d'ailleurs. Mmh. Il suffit d'écouter ça pour voir que Assassin, c'est vraiment le groupe le plus près, carré, qui savent faire un morceau, qui savent le structurer, etc. Il y avait IAM aussi à l'époque. Mais...
Et après, même tout de suite dans la lancée, le premier maxi d'Assassin avec notre mon nom sur ta liste, Je glisse, tout ça.
C'est fondateur.
C'est une pierre angulaire du rap français, quoi qu'on en dise. C'était à l'époque avec IAM, je pense que vous étiez les deux groupes les plus en avance à ce moment-là ou les plus près.
Ben alors moi je dirais que le groupe le plus près à mon avis c'était IAM, oui. Très clairement.
Ça on l'a su après avec la cassette quoi.
Mais... oui et ça c'était quand même déjà avant Rap Attitude. Donc il y a même pas à discuter.
Justement parce qu'en plus la petite histoire c'est je crois que c'est Squat qui a fait tourner la cassette sur Paris. Qu'il a fait découvrir aux gens. Quand vous l'avez reçu, vous êtes pris une baffe. Ça vous a dit attends, faut qu'on enclenche la seconde parce que là ils nous ont mis une baffe ou
Ah ben très clairement. En fait, tout ça vient du cousin de Squat, Yvan, qui connaissait AKH.
Le dentiste.
Ouais, voilà, le pharmacien, okay. Qui connaissait donc les gens d'IAM, le groupe, et qui quand ils sont descendus à Marseille a fait en sorte qu'ils se rencontrent et les gars de IAM. Parce que moi, j'étais pas là. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont donné une cassette, une ou deux cassettes, à Didier, Joey et Tosquois. Et eux sont remontés avec. Et quand ils sont remontés avec, effectivement, ça a été le raz-de-marée. Tout le monde s'est fait des copies. C'est parti dans tous les sens. Et en fait, on était estomaqués du niveau que les mecs, ils avaient mis dans ce qu'ils avaient fait. C'était les premiers à avoir utilisé des samples, à avoir vraiment produit leur truc. Quoi. Ils
la cassette un projet abouti. La cassette s'appelait Concept, effectivement. Oui, c'était un album Concept. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de titres qui sont retrouvés sur Planète Mars, ensuite leur premier album officiel, et que je trouvais même mieux sur la cassette que sur le premier album.
Et surtout, je pense que ça nous a tous inspirés. Mmh. Et ça a surtout été servi de locomotive à tout le monde de vraiment se mettre au boulot. Ils avaient mis la barre, voilà, le plus haut possible pour le rap français de l'époque. Et je pense que c'est ça qui nous a tous tirés vers le haut et ça a mis un gros coup de boost, quoi.
Aucun nouveau déclarant la nouvelle ère de panique. Tu restes statique, bélier, réalise ainsi. Crie au monde de ceci que je suis.
I am Imperial Asiatic Man. Nouvelle forme qui revient, soudain tu traces. Mais relax, n'a jamais je ne taxe. Mais place ma voix sur wax, ce tour d'un axe.
Et passe sur le pack, c'est chasse des traces. Disant que t'es un as, follow 24 tracks. Cacheux et qu'elle a qu'elle a ton équipe off. On pousse la limite jusqu'au
max. Dite comme impérial, indivisible et immuable. Implicite et inchangeable. Comme l'Empire chinois et les dynasties de haute et basse Égypte et le dieu d'Atlantati.
Avant mon mari, à Kobayashi, première lettre de l'alphabet pour la terre mère Afrique. Bille du Tao, je frappe dans le Pao. Ne sais pas de lutter ou tu resteras KO.
Aime tous tes frères, aime tel que Mentality Homme. Égo en proie les mêmes et en somme fait rayonner le diadème de la reine unité. Demain je dirai aime.